Les As de la CoPro, l'émission qui rebat les cartes de la copropriété. Présentée par Gilles Frémont, président de l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété, sur Radio Immo.
Bonjour, bonjour à tous. Très heureux de vous revoir pour cette deuxième émission, Les As de la CoPro. Je crois que la première a plutôt bien marché. On se fait la deuxième. On est début juillet. C'est un vrai plaisir de vous revoir. J'ai les mêmes invités que la dernière fois. Ils ont répondu présent. Je les remercie chaleureusement. Donc, je commence le petit tour de table. Mathieu Mialaret. Bonjour, Mathieu.
Bonjour, Gilles. Bonjour à tous.
Alors, Mathieu, vous êtes directeur administrateur de biens, gestion locative, copropriété au sein du groupe Foncia au siège. Vous y êtes depuis plus de 20 ans, fidèle parmi les fidèles.
Ouais, pas 20 ans au siège, mais ça fait un moment chez Foncia, en effet. Ouais.
Exactement. Marie-Hélène Leca, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Vous êtes dirigeante responsable d'agence Auralia Paris 17e, donc syndic de copropriété pure et dure.
Enfin, ADB, plus largement
ADB. ADB, syndic de copropriété. Et à ma droite, Pierre-Édouard Lagrelais. Bonjour Pierre-Édouard.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Pierre-Édouard, vous êtes avocat au barreau de Paris, avocat au barreau de Lyon, vous êtes Bordeaux.
Peut-être demain,
à Lyon aussi. C'est tout ce que je vous souhaite à l'international. Vous êtes docteur en droit et auteur du livre « Syndic de copropriété » paru chez Edilex. Alexis Decoster, bonjour Alexis.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Et voilà, merci vous aussi de votre présence. Vous êtes responsable, directeur, métier, administrateur de biens, gestion locative, copropriété au sein du groupe Crédit Agricole Services Immobiliers.
Tout à fait.
Alors on attaque, on a un rythme soutenu, on va essayer de s'y tenir, même si on a beaucoup de choses à dire. Je vous sens très bavard aujourd'hui et tant mieux. Et on va commencer par la séquence 1, le point juridique.
Les As de la CoPro, le point juridique.
Première question, premier thème que je voudrais aborder avec vous, dans ce thème, le point juridique, c'est les failles du VPC. Le VPC, le vote par correspondance, donc aujourd'hui en Assemblée Générale et donc depuis la loi Elan, on peut voter en adressant à son syndic un formulaire de vote par correspondance qui est réglementé, dans lequel on coche son choix de vote pour, contre, abstention, question par question, résolution par résolution. Aujourd'hui, le VPC n'est pas décrié, mais il est discuté. Il y a des failles, il y a des défauts, et on le voit sur le terrain, et donc on en parle aujourd'hui. Marie-Hélène, c'est quoi ces défauts principalement ?
Alors, ces défauts, c'est principalement la problématique des passerelles, donc les deuxièmes votes en séance, il faut qu'ils soient indiqués au sein du formulaire, et ensuite les problématiques de vote de travaux, où si on veut choisir une entreprise, il faudrait que résolution par résolution, on porte les entreprises, ce qui peut aussi générer que les copropriétaires votent pour plusieurs devis en même temps. Enfin, parfois, c'est un peu cacophonique aussi, parce que c'est pas évident. L'absence de débat fait que c'est un peu compliqué parfois de chez soi de pouvoir être intelligible pour les copropriétaires. C'est assez rigide, hein, puisqu'on ne peut rien amender. Hein, on ne peut pas toucher au formulaire. Et par conséquent, s'il y a des amendements lors de l'Assemblée générale, il faudrait compter ces copropriétaires comme défaillants, puisque la résolution a bougé. Donc, il y a encore des choses à améliorer. Le côté positif, c'est quand même de permettre à des gens, enfin, en tout cas, d'éviter l'absence de fréquentation des assemblées générales, ou en tout cas de l'accroître. Mais il y a peut-être un peu des choses à amender pour que ça soit plus efficace.
C'est vrai que le VPC a été créé pour lutter contre l'absentéisme en assemblée générale. Est-ce qu'il a fait monter le taux de votants ? Est-ce qu'il n'a pas, au détriment du taux de participation physique et donc de débat, de délibération ? On parlait des passerelles, on parlait des résolutions à trous, des candidature spontanée. Pierre-Édouard, votre sentiment sur ce VPC d'un point de vue avec l'œil purement juridique ?
C'est pour l'instant assez difficile à évaluer parce que la pratique a été celle des assemblées générales pendant la période Covid et le recours a été assez massif, parfois même unique, puisque les assemblées générales ne sont souvent pas tenues, tout simplement. Les votes sont passés par cette méthode-là, de vote par correspondance. Donc, c'est difficile d'avoir du recul et d'avoir un regard objectif sur la situation aujourd'hui, de pouvoir faire des statistiques. Maintenant, les difficultés que l'on a rencontrées, et elles ont été très bien décrites par Marie-Hélène, ce sont des problèmes d'amendement de séance, d'être bloqué finalement dans la vie de l'Assemblée générale, de savoir comment on peut aménager une résolution sans perdre la moitié des votants qui sont par correspondance, parce qu'on a touché une virgule, parce qu'on a légèrement modifié un prix, parce qu'il y a eu cet amendement qui les rend défaillants.
D'où l'amendement. Il faudra peut-être que la jurisprudence se prononce sur
sans
la
doute,
définition
sans doute qu'elle
de l'amendement.
Moins stricte que ce qu'on a tendance à dire, parce qu'on a tendance à être très rigoureux sur le texte, notamment parce qu'il y avait initialement une rédaction un peu plus large avec l'amendement substantiel et ça n'a pas été conservé. On a un amendement tout simplement. Peut-être que la jurisprudence desserrera un petit peu l'analyse que l'on a, qui est une analyse prudente. Mais dans tous les cas, il y a une difficulté de cette participation distante et on comprend qu'on veuille protéger la personne qui n'est pas là. Mais c'est vrai que c'est bloquant pour l'Assemblée générale, c'est bloquant pour sa capacité de décision. Et en plus, ça ajoute à cela pour les syndics une difficulté qui n'est pas directement la leur, mais qui est celle des éditeurs de logiciels. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, mais on assiste à des problématiques qui sont d'ordre purement technique, où on a des logiciels qui ne sont pas encore parfaitement calibrés pour le vote par correspondance, et notamment pour modifier le vote des correspondants absents et qui deviennent défaillants parce que, on a amendé en séance une résolution. Et ça, c'est un vrai problème juridique et technique qu'il va falloir résoudre dans les tout prochains mois, parce que je pense qu'il y a des syndics qui vont aller au-devant de difficultés.
C'est vrai que sur les passerelles, pour l'instant, je crois qu'on a un seul arrêt d'un tribunal d'Orléans qui dit qu'il faut prévoir sur le formulaire le second vote, sauf que certains, et notamment à la CLCV, je crois que c'est leur position, disent « mais comment peut-on voter en deuxième lecture si on n'a pas le résultat de la première lecture, de la première décision ?» Parce qu'on peut tout à fait changer son vote en deuxième lecture en fonction des débats, de la délibération de la première lecture. Mathieu ?
Oui, mais exactement. Moi, je pense que c'est vraiment ça la limite du vote par correspondance. C'est qu'on est exclu des débats. Et l'Assemblée générale, c'est un lieu de débat, c'est un lieu d'échange.
D'ailleurs, on dit l'Assemblée générale, après en avoir délibéré,
exactement,
décide d'eux.
Et c'est très sain. Et l'ordonnance, la dernière ordonnance sur la copro, finalement, a conforté ce rôle de l'Assemblée générale, hein, puisqu'elle a... Voilà, on parlait d'autres solutions. Là, l'Assemblée générale reste un lieu de débat, de démocratie directe, où chacun s'exprime, vote, mais après avoir entendu les autres. Et là, le vote par correspondance l'empêche complètement. Moi, si j'ai une recommandation à faire à tous les copropriétaires qui nous écoutent aujourd'hui, il vaut mieux donner son pouvoir à quelqu'un à qui on en tire confiance, plutôt que de voter par correspondance.
La délégation de vote, qu'on
connaît
tous.
Qui fonctionnait très bien. À partir du moment où on a confiance dans la personne à qui on donne pouvoir, c'est beaucoup plus efficace qu'un vote par correspondance où on vote tout seul dans son coin sans en discuter avec les autres.
Alors, beaucoup de choses à dire. On va peut-être pas parler encore d'abrogation du VPC. On va essayer de l'améliorer, de le retoucher. En tout cas, il va falloir remettre ça sur le métier. Je vous remercie. Peut-être qu'Alexis, un dernier mot.
Sur cette partie de faille, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution ni juridique, pas encore suffisamment technique pour justement pallier les carences et toutes les difficultés, parce qu'aujourd'hui, là encore aujourd'hui, on a des assemblées générales encore ce soir, dans quelques semaines, beaucoup à la rentrée, et on aura toujours ces difficultés. Et aujourd'hui, on constate les failles, mais on n'a pas encore de solution pour combler toutes ces lacunes. Et ça, c'est une vraie difficulté aujourd'hui.
Et il va falloir quand même s'en préoccuper. J'enchaîne sur la deuxième question, le deuxième thème de cette première séquence, le point juridique. Je vous donne la parole pour ouvrir, Pierre-Edouard. Location touristique saisonnière, c'est toujours d'actualité, mais c'est un sujet d'actualité depuis 5 ans, 6 ans, enfin plusieurs années en tout cas. Doit-on nécessairement modifier le règlement de copropriété pour l'empêcher ? Il est vrai qu'en Assemblée générale, des copropriétaires nous demandent d'inscrire à l'ordre du jour l'insertion d'une clause dans le règlement de copropriété interdisant purement et simplement la location touristique saisonnière. Si oui, est-ce que c'est possible, mais est-ce que c'est toujours nécessaire ?
C'est une question à tiroir, parce que au fond, il faut d'abord s'interroger sur ce que c'est que la destination de l'immeuble, ce que les copropriétaires ne savent pas toujours, ou parfois, lorsqu'ils le savent, ils préfèrent un petit peu l'ignorer, parce que ça les contraint, parce qu'effectivement, la destination de l'immeuble, ça n'est pas seulement ce qu'il y a dans le règlement de copropriété, c'est aussi des données objectives, c'est-à-dire la situation de l'immeuble et ses caractéristiques. C'est ainsi qu'est définie la destination de l'immeuble, hein, à l'article 8 de la loi de 1965, c'est au regard de l'immeuble. Et effectivement, au regard également des clauses du règlement de copropriété, mais qui doivent être conformes à ces éléments objectifs. Alors la question, c'est peut-on toujours interdire la location saisonnière? Eh bien non, on ne peut pas toujours, parce que lorsque l'immeuble est à destination mixte ou commerciale, alors mixte, c'est-à-dire avec des bureaux, ou mixte commercial, ou libre, c'est-à-dire commercial, habitation et bureaux, on a des difficultés à interdire la location saisonnière parce que la jurisprudence n'est pas encore tout à fait fixée, même lorsqu'il n'y a qu'une mixité de bureaux, parce que la jurisprudence, pendant un long moment, a admis que la location saisonnière pouvait être rapprochée d'une activité de bureau et ne présentait guère plus de nuisances. Alors, il y a une évolution sensible qui paraît assimiler la location saisonnière de manière beaucoup plus systématique à une activité commerciale et donc à exiger que l'immeuble puisse permettre l'exercice de cette activité-là.
Si on est dans un immeuble avec un règlement de copropriété qui indique que la destination de l'immeuble est à usage bourgeois ou exclusivement bourgeois, à plus forte raison, pas besoin de modifier le règlement.
Exclusivement bourgeois, pas besoin de modifier le règlement de copropriété. Alors, ceci étant, à condition que la clause soit conforme à la destination de l'immeuble telle qu'elle résulte de ses caractéristiques. Si c'est une clause simplement bourgeoise, bien, la question doit être posée, parce que si on a des activités de médecine libérale avec une clinique dans les étages, le juge peut apprécier vraiment de manière concrète de savoir si la location B&B présente plus ou moins de troubles au regard de cette clause, même si, comme je le disais, elle est plus sévère aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a une dizaine d'années, parce que c'était sa position, notamment la Cour de cassation. Ça a un petit peu évolué, c'est un peu plus favorable aux copropriétaires qui souhaitent interdire cette activité commerciale, mais c'est pas toujours évident. Ce qui fait que dans un certain nombre de cas, plutôt que d'interdire l'activité, on va se rabattre sur un pis-aller, mais qui est le trouble de jouissance. Et donc on va limiter, non pas interdire, mais limiter l'activité par ce biais-là lorsqu'on a des immeubles qui sont tout simplement mal isolés ou lorsqu'on a des occupants et des bailleurs qui sont peu regardants et qui troublent la quiétude des occupants.
Alors, merci Pierre-Edouard. C'est vrai que souvent, Marie-Hélène, dans certains règlements de copropriété, on a vieux règlements de copropriété, on a aussi une clause qui interdit location meublée, tout court.
Alors, oui, ça c'est surtout l'usage du lot et quelle est la destination du lot, si c'est un lot d'habitation ou si c'est un lot commercial, parce que comme le disait Pierre-Edouard, l'allocation meublée de courte durée, parce qu'en définitive, c'est ça, le Airbnb, elle a normalement une destination commerciale. Donc ça, c'est défini par le Code de la construction et de l'habitation, très clairement. Il y a aussi...
Ce qui voudrait dire que si en tant qu'activité commerciale, l'allocation Airbnb serait purement et simplement impossible dans un immeuble. Donc pas la peine d'aller rajouter une clause. Pas la peine d'aller rajouter une clause.
Selon la destination du lot, oui, selon l'usage du lot qui en est fait. Alors,
il y a la jurisprudence qui a effectivement récente, qui avait condamné un propriétaire, mais qui se livrait à la location touristique un peu à échelle hôtelière, c'est-à-dire qu'il avait plusieurs biens, plusieurs logements au dernier étage, il le faisait, disons, à grande échelle. Est-ce qu'il aurait eu la même décision vis-à-vis d'un particulier qui aurait loué occasionnellement, en plus une partie seulement de son logement d'habitation? Est-ce que le juge serait allé jusqu'à qualifier cette activité de commerciale?
Je ne sais pas comment est la jurisprudence et comment apprécient les magistrats, mais je suppose, parce que moi j'ai eu le cas sur un immeuble où c'était carrément une location intensive, c'est-à-dire 70 couchages dans un immeuble parisien. Donc là, tout a été utilisé, c'est-à-dire le trouble de voisinage avec les attestations, la mobilisation, une partie avec l'examen du règlement de copropriété au niveau judiciaire. Là, on essaye de croiser tous les faisceaux pour interdire cette location-là, quoi. Parce que le fondement de la problématique de la location de courte durée, c'est les gênes que ça occasionne et la dévalorisation de l'appréciation du bien, en définitive, par des allées-venues, par des désordres au niveau des parties.
Et là, on est sur les troubles du voisinage, etc. On est sur un autre fondement. Finalement, donc, la notion de destination de l'immeuble est importante. La qualification de cette activité-là en face, elle est également, on confronte les deux pour savoir si c'est interdit ou s'il faut rajouter une clause ou pas. Je propose qu'on passe à la deuxième séquence parce que le temps défile. C'est la question du copropriétaire.
Les As de la CoPro, la question du copropriétaire.
Bonjour, je suis Madame Albiol, je suis copropriétaire. J'ai des questions concernant le DPE collectif. Le DPE collectif, qu'est-ce que c'est exactement? Quels sont les délais pour les effectuer? Le DPE collectif est-il fiable? Et surtout, aura-t-il des conséquences sur les appartements en termes de location et ou de vente? Et enfin, pour terminer, le syndicat des copropriétaires peut-il être tenu responsable vis-à-vis du bailleur en cas d'interdiction de louer? Je vous remercie.
Alors, il y a pas mal de questions, mais on va donner la parole à Alexis qui a envie d'intervenir sur le DPE.
Alors, ça pose énormément de questions, ce DPE collectif. Alors déjà, le DPE collectif, il fait partie déjà de tout cet arsenal de documents, de diagnostics que l'on a, qu'on se doit de mettre en œuvre dans le cadre de nos assemblées générales de copropriété. Aujourd'hui, à date, le DPE collectif, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que le DPE individuel, mais à l'échelle de l'immeuble en copropriété. Alors, on a une petite subtilité depuis la loi croissance de 2021, c'est que le DPE collectif...
Climat et résilience,
pardon, oui.
Croissance, ce sera peut-être la prochaine.
Ce sera peut-être la prochaine, oui. Ne vaut plus DPE individuel. Alors ça, c'est quelque chose qui s'est très peu vu dans le cadre de ces nombreux articles du Code de la construction, que ce soit sur la partie législative et réglementaire. Alors ça, c'est déjà une première information que l'on a. Et donc aujourd'hui, ce DPE collectif, on est en attente encore d'un décret apparaître, puisque y a tout un tas notamment d'informations que le syndic devra transmettre,
notamment au
diagnostiqueur, tout à fait, pour que ses auditeurs ou diagnostiqueurs soient en capacité de réaliser ce DPE collectif. Donc aujourd'hui, ce DPE est opposable. C'est-à-dire que pour un copropriétaire d'un appartement, il y aura finalement deux documents, puisqu'il y aura un DPE collectif pour l'ensemble de l'immeuble et il restera le DPE individuel à réaliser à l'échelle de l'appartement. Donc effectivement, une des difficultés à laquelle on est confronté aujourd'hui, pour un certain nombre, notamment de bailleurs que nous administrons, c'est de la difficulté et les questions que se posent de manière très justifiée les copropriétaires bailleurs, c'est que peut faire aujourd'hui un bailleur qui voit ses échéances poindre en 2023, 2025, 2028 pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique, puisqu'on dit que à partir même du d'août 2022, interdiction d'augmenter le loyer. En 2023, on aura un certain nombre de lots qui seront non décents, et puis après, on arrivera sur une interdiction de louer. Donc, pour un bailleur, nécessité forte de faire réaliser ces travaux pour qu'ils soient encore en capacité de proposer leur bien en location.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bailleur est tributaire de la copropriété.
De la copropriété pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique.
Et par rapport à son étiquette, Mathieu ou Alexis, son étiquette personnelle, celui de son DPE privé, de son appartement, va se retrouver impacté par la mauvaise étiquette de la copropriété. Et s'il se retrouve interdit de louer, il va se retourner contre le syndicat des copropriétaires.
Alors, il y a une chose qui est claire, hein, c'est que la performance énergétique d'un appartement, elle dépend énormément de la performance énergétique du bâtiment. La passoire énergétique, hein, c'est celle qui est mal isolée. Donc, c'est le toit, les façades, peut-être un peu les fenêtres, mais le gros du sujet, c'est quand même sur l'enveloppe. Et clairement, les bailleurs vont assez vite atteindre les limites de ce qu'ils peuvent faire dans leur appartement. Donc ça, après, est-ce qu'ils vont pouvoir se retourner contre la copropriété ? C'est assez probable, on en parlait tout à l'heure avec Pierre-Édouard, c'est assez probable, mais ça ne transparaît pas très clairement de la loi climat. Moi, ce que je reproche énormément à la loi climat, c'est qu'elle donne un peu l'impression qu'il y a deux blocs.
On est dans la responsabilité du sigil de droit commun.
Alors, probablement, mais les obligations du syndicat des copropriétaires, elles ne sont pas très évidentes. Si on lit la loi climat, alors il y en a certainement, et la jurisprudence nous aidera sans doute, ou viendra sans doute... Éclairer et mettre la lumière sur les obligations des syndicats de copropriétaires. Mais aujourd'hui, ce qu'on lit, c'est que le syndicat, il a l'obligation de faire un DPE collectif qui ne vaut pas un DPE individuel, un projet de plan pluriannuel de travaux, à des échéances qui se rapprochent, mais qui sont quand même un peu lointaines et qui sont complètement décorrélées des obligations du bailleur qui, lui, pour les premiers, dès la fin de cette année, en fait, vont plus pouvoir louer. Ce que je reproche à la loi climat, c'est qu'on a l'impression qu'on a deux blocs. Le bailleur d'un côté, l'immeuble de l'autre. Certes, Pierre-Édouard le dirait, il y a des obligations et il y aura certainement des possibilités de recours du bailleur contre le syndicat des copropriétaires, mais aujourd'hui, ce n'est pas bien évident. Et je trouve qu'il devrait être possible de remettre plus de cohérence, et notamment dans les délais, c'est-à-dire par exemple que les premières interdictions de louer viennent après l'obligation de faire le DPE collectif et le projet de plan pluriannuel de travaux, pour que les copropriétés puissent faire les travaux et donc permettre aux bailleurs de remplir leurs obligations. Et puis enfin, c'est pour moi une hérésie que le DPE collectif ne vaille plus DPE individuel. Encore une fois, aujourd'hui, 80% du boulot est sur les parties communes. Donc voilà, il ne faut pas décorréler les deux.
C'est l'enveloppe, parce que c'est vrai que le DPE individuel, c'est vrai qu'à l'échelle d'un appartement, enfin, le propriétaire bailleur, il est presque démuni, à part changer éventuellement ses fenêtres.
Ses radiateurs. En six chauffages individuels.
Six chauffages individuels, ou faire de l'isolation intérieure, donc c'est perdre des mètres carrés. Donc dites ça à quelqu'un qui habite au centre de Paris, on perd quelques milliers d'euros. Donc c'est extrêmement difficile. Et aujourd'hui, c'est vrai que si on prend notre casquette d'administrateur de biens, on loue un certain nombre de biens aussi en gestion locative sur l'autre métier de l'administration de biens. Donc on se doit de conseiller nos propriétaires bailleurs. Donc qu'est-ce qu'on conseille de faire? Potentiellement, si on ne gère pas l'immeuble en copropriété, c'est de proposer une information à soumettre à l'ordre du jour auprès du syndic confrère pour que cette question de rénovation énergétique soit mise à l'ordre du jour et soit votée. Mais c'est extrêmement difficile à réaliser.
Mais alors, in fine, si ces questions-là sont à l'ordre du jour, l'Assemblée générale étant souveraine, refuse, après le DPE, après PPT, même après avoir adopté un plan, à la fin, il faut quand même qu'elle les vote, ces travaux. À la fin, elle refuse de les voter, elle n'a pas d'argent, le mur de l'argent, on le sait tous. Est-ce que le sachant que depuis la loi Elan, Pierre-Edouard, vous nous le confirmerez, le syndicat des copropriétaires a une troisième obligation, celle d'améliorer le bâti, celle d'améliorer l'immeuble. Donc, est-ce qu'il n'est pas finalement tenu de faire ces travaux?
Si, il est tenu. Et moi, j'ai une approche un petit peu différente, mais je comprends la complexité du dispositif parce qu'effectivement, il a été assez phagocyté. C'est-à-dire qu'il y a totalement deux blocs. Il y a un bloc en droit de la copropriété qui s'est formé. Et il y a un bloc dans le code de la construction et de l'habitation. En fait, on a un cadre très strict qui est fixé par le code de la construction et on a une méthodologie qui est donnée par la loi de 1965. Le problème, c'est qu'il y a une décorrélation entre les deux. Mathieu l'a parfaitement dit, les calendriers ne sont pas du tout adaptés parce que les calendriers en droit des baux sont beaucoup plus... ils arrivent beaucoup plus tôt que le calendrier de la copropriété, alors que les deux sont intimement liés lorsqu'il y a de la location en copropriété. Donc il y a un problème de méthodologie, mais le cadre, lui, est très clair. Il y a une obligation de rénovation énergétique. Il y a en droit des baux des logements qui vont sortir du parc locatif avec des échéances qui sont définies à l'article 6 de la loi de 89, très clairement. Et en droit de la copropriété, on a l'article 14, alors effectivement, qui a précisé l'objet sur l'amélioration, mais on le sait depuis 1965, une nouveauté, mais on le savait déjà, mais qui est vraiment une clarification, c'est sur la responsabilité du syndicat. C'est une responsabilité de plein droit, dès lors qu'une personne, qu'elle soit copropriétaire ou non, subit un préjudice du fait des parties communes. Si on a un appartement...
Responsabilité sans faute.
Si un appartement est classé G parce que l'immeuble est mal isolé, eh bien, le propriétaire bailleur qui verra son loyer réduit va bien subir un préjudice. Le préjudice va bien avoir sa cause dans les parties communes. Donc, en application de l'article 14, qui prévoit un mécanisme de responsabilité de plein droit, le syndicat sera responsable. Et la preuve de cette responsabilité, elle sera très simple. Parce que dorénavant, le DPE, c'est le... Alors, excusez-moi, je ne l'ai pas tout à fait en tête, mais de mémoire, c'est un arrêté d'avril de cette année qui définit le contenu du DPE, nous dit qu'il va y avoir les préconisations de travaux à réaliser. Ça veut dire que tant le DPE individuel que le DPE collectif vont nous dire déjà si ce sont des travaux en partie privative ou des travaux en partie collective. Et ensuite, en copropriété, on va faire le projet de plan pluriannuel de travaux qui va préciser ces préconisations du DPE, puisque le PPPT est réalisé sur la base du DPE. Donc on va avoir toutes les informations utiles et nécessaires pour démontrer que les travaux doivent être faits en partie commune et que c'est à cause du syndicat des copropriétaires qui n'a pas fait les travaux qu'on ne peut plus louer. Donc le schéma de responsabilité, il est très clair. Le cadre, il est parfaitement défini. Par contre, on a une méthodologie qui est totalement défaillante en copropriété et c'est la raison pour laquelle on avait préconisé, peut-être pas sur cette radio, mais par ailleurs, de se presser grandement à réaliser tous les contrôles, c'est-à-dire DPE et PPPT, pour engager les travaux, pour éviter ce risque très important de responsabilité du syndicat à l'égard des bailleurs.
On avait oublié le DTG, le diagnostic technique global.
Le feu DTG, non, il existe encore. Je vous remercie beaucoup. On enchaîne sur la séquence 3, le métier de syndic.
Les as de la copro, le métier de syndic.
Le métier de syndic, première question, je ne peux m'empêcher de me tourner vers Mathieu.
Pas moi.
Quel est le prix d'un cabinet de syndic? Voilà, quand on rachète, quand on vend son cabinet, certains partent à la retraite, certains ne trouvent pas de repreneur, certains en ont marre. Il y a sur le marché, il y a un marché, comme tout, hein, comme pour tout, du cabinet de syndic. Comment on l'évalue? C'est vrai qu'on peut se poser beaucoup de questions. Alors, Foncia et d'autres groupes sont assez actifs hein, sur le marché des rachats de cabinets, de la croissance externe, hein, qu'on distingue de la croissance organique. Comment on évalue un cabinet? Par rapport au chiffre d'affaires, au nombre d'immeubles?
Alors, le prix est généralement exprimé comme un multiple du chiffre d'affaires. Ça, c'est la, comme on exprime le prix d'un contrat de syndic en un prix au lot, traditionnellement, pour le rachat d'un cabinet, c'est un multiple du chiffre d'affaires. Mais maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on va établir ce multiple-là? Quand on rachète un cabinet, en fait, on a la volonté d'en améliorer la performance économique à court ou moyen terme. Et pour ça, il faut qu'on arrive à maintenir la qualité de service, voire à l'améliorer, soit par la digitalisation, soit par des offres additionnelles, soit par des services additionnels. La question est comment est-ce qu'on va réussir à faire tout ça et dans quelle mesure, dans quelle durée. Donc, avant de fixer le prix, il va y avoir forcément un audit approfondi, réalisé par des équipes qui dépendent de la direction financière, hein, et qui vont aller évaluer un certain nombre de points très concrets, comme l'ancienneté du portefeuille, le taux de renouvellement du portefeuille.
La durée des mandats.
La durée des mandats, mais aussi la qualité de l'organisation, la qualité de la comptabilité, les process internes qui sont mis en œuvre. Et tout ça, en fait, va permettre d'identifier les difficultés qu'on aura à maintenir une qualité de service ou au contraire, la facilité qu'on aura, à la pérenniser et améliorer tout ça en apportant des services additionnels. C'est qu'à l'échéance de cet audit, qu'on va voir si on formule une proposition, parce que quelquefois, on n'en formule pas, si on se rend compte que ça ne va pas être possible, et qu'on va définir un prix qui, après, sera traduit en multiple du chiffre d'affaires.
Alors,
mais il n'y a pas de marché, c'est ce que je veux dire. On a quelquefois l'impression qu'il y a un prix de marché, une espèce d'argus.
On entend quand même des choses pour renseigner nos auditeurs. Alexis, la valeur d'un cabinet qui ne ferait que de la copropriété, on est sur quoi, 1,5 chiffre d'affaires?
Après, c'est toujours pareil, c'est la rencontre entre un vendeur et un acheteur. Donc finalement, le prix, c'est le prix qui sera topé dans la main. Alors effectivement, historiquement...
Qu'est-ce qu'on voit?
Historiquement, il y a des multiples 1. Alors à l'époque, on était plus sur un coefficient 1. Maintenant, on est plus sur du coefficient 1,5. Parfois, on peut monter beaucoup plus. Hein. Ça dépend de la qualité intrinsèque du cabinet.
Ça va dépendre de ce qu'on va constater.
De ce qu'on va constater quand on va l'auditer, en fait. Donc il n'y a pas de formule magique. Après, il y a une façon comptable avec des multiples d'opérer. Encore une fois, hein, c'est la rencontre entre un vendeur et un acquéreur. Ça évolue très peu, il n'y a pas véritablement de marché. Après, on peut aller au-delà de l'audit, on peut déterminer la manière après dont on va racheter le cabinet.
Oui, les modalités de paiement, la dernière tranche.
Est-ce qu'on reprend le fonds de commerce? Est-ce qu'on ne fait que reprendre les titres? Donc tout ça avec des incidences et des conséquences juridiques un petit peu différentes.
Et donc, parce qu'on peut racheter le cabinet ou on peut racheter le portefeuille.
On peut racheter uniquement le portefeuille, on peut racheter le cabinet... Et puis l'ensemble avec l'ensemble.
Est-ce que l'ancien dirigeant va?
Est-ce que l'ancien dirigeant continue ou est-ce qu'il s'arrête parce qu'il part en retraite par exemple? Donc tout ça fait que c'est du cas par cas en fait.
Bon, donc c'est la loi du marché. Bon, moi je retiens qu'on est en gros en ce moment hein, le cours du syndic.
Pas de cours du syndic, Gilles. Désolé, c'est un fantasme.
Ok, alors on va rester sur ces explications. Je vous remercie beaucoup. Et j'enchaîne tout de suite sur la deuxième question, les prêts collectifs. Alors, on parlait des travaux d'économie d'énergie. Les politiques publiques poussent les copropriétés et les syndics à aller dans les travaux d'économie d'énergie. C'est des travaux d'envergure. On parle de centaines de milliers d'euros, parfois de millions d'euros. Et même si certaines copropriétés sont sous perfusion de subventions publiques, ça reste de la propriété privée. Et donc, cette propriété privée, cet entretien, ce patrimoine, se finance avec des fonds propres ou si on est sur des grosses cotes-parts, on parle parfois de cotes-parts de 20 000, 30 000 euros, 40 000 euros pour chaque copropriétaire, on part nécessairement sur des prêts collectif. En tout cas, on propose des prêts collectifs. Sauf que on constate depuis un peu toujours qu'il y a pénurie en matière d'offres de prêts collectifs. Et la question que je pose à Mathieu ou Alexis, qui veut prendre la parole, où sont les banques aujourd'hui? On a l'impression qu'il n'y a qu'une seule banque et donc pas de concurrence. Et si on la trouve, c'est une vraie galère pour monter un dossier sur le plan administratif, Mathieu.
Oui, alors effectivement, les banques, on n'en trouve pas beaucoup qui acceptent de faire du prêt collectif. En fait, on en trouve aujourd'hui une seule, qu'on peut remercier d'ailleurs, c'est la Caisse d'Épargne Île-de-France, la valeureuse Caisse d'Épargne Île-de-France. Je crois que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les charges et les obligations qui pèsent sur les banques sont totalement écrasantes par rapport à l'intérêt qu'a pour eux un emprunt collectif ou un prêt collectif si on se place de leur côté. Aujourd'hui, en fait, les banques ont des obligations de conformité, de découverte du client, de collecte de pièces, de vérification qui les écrasent administrativement et qui finalement retirent tout intérêt à un prêt collectif. Je pense qu'on en est en partie responsable, hein, parce que alors là, les syndics qui nous écoutent, les gestionnaires qui nous écoutent le savent bien, il y a deux types d'emprunt collectif et je parle de l'emprunt collectif facultatif, c'est-à-dire à adhésion facultative par le copropriétaire. Il y a celle où le copropriétaire rembourse directement, et on s'est tous, nous, syndics, précipités vers cette solution parce que pour nous, ça semblait plus facile. Mais pour la banque, en fait, ça
revient à un prêt individuel.
Ça revient à un prêt individuel avec des quotes-parts extrêmement faibles. Alors qu'il y a une autre solution qui est emprunt collectif et remboursement par le syndicat des copropriétaires, qui tous les trimestres, donc c'est le syndicat des copropriétaires, donc le syndic qui va procéder au remboursement et qui lui-même va appeler les quotes-parts à chacun des copropriétaires.
Avec une bonne assurance. Avec une bonne garantie, une bonne assurance.
Alors,
en cas d'impayé.
C'est un autre sujet. Mais du coup, si nous, on arrive à aller vers ça, j'allais dire, ça doit alléger considérablement les obligations de la banque, qui n'a plus qu'un seul interlocuteur, qui est le syndicat des copropriétaires. Il faudrait qu'on arrive d'ailleurs à complètement faire disparaître derrière le copropriétaire aux yeux de la banque. Hein, c'est-à-dire que la banque va aller vérifier la solvabilité du syndicat, l'état des comptes. Et puis après, c'est au syndic de se débrouiller pour rappeler les fonds. Et comme un appel de fonds traditionnel. Je vais rapidement, mais vous évoquez le problème de la garantie financière. Aujourd'hui, le cautionnement est obligatoire. On peut se poser la question, est-ce que vraiment c'est nécessaire qu'un emprunt collectif soit, entre guillemets, assuré par un cautionnement obligatoire qui renchérit les coûts? Quelle est la différence entre faire un appel de fonds sur 10 ans, par exemple, pour rembourser trimestriellement une quote-part d'emprunt, et appeler immédiatement la quote-part de très gros travaux? Est-ce qu'il y a plus de risques pour un syndicat copropriétaire à appeler en 10 ans des sommes faibles ou en une fois, deux fois, trois fois des sommes très importantes? Et pourtant, quand on fait des appels de fonds travaux, il n'y a aucun système de cautionnement en place. Il y a une solidarité, il y a des moyens de recouvrement. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer à l'emprunt collectif ce même type, ces mêmes types de privilèges, ce même type de recouvrement, alors, pour simplifier les choses?
C'est très technique et c'est très intéressant. Alexis, au Crédit Agricole, on réfléchit à ces questions.
Bien sûr. La difficulté technique que pose Mathieu, elle est réelle, en fait. Ne serait-ce qu'au sein des différents emprunts collectifs qui existent, puisqu'il y a l'emprunt avance sur subvention, il y a l'emprunt, donc le groupe d'emprunteurs individuels, on a l'emprunt collectif classique, on a l'emprunt voté à l'unanimité qui n'existe qu'en théorie. Enfin, tout ça mériterait une simplification forte. C'est vrai que côté banque, il y a des vraies difficultés, ne serait-ce que techniques, pour mettre en place ce qu'on appelle ces chaînes de crédit. Parce qu'effectivement, côté banque, on doit répondre à un certain nombre de critères de contrôle et c'est extrêmement complexe à mettre en place. Compte tenu en plus du fait, alors c'est moins vrai maintenant, puisqu'on a eu un décret qui est passé inaperçu par rapport au taux d'usure. C'est vrai qu'économiquement, jusqu'à présent, les banques n'avaient pas forcément intérêt à y aller, puisque le coût économique n'était pas intéressant. Donc c'est extrêmement compliqué et simplifier très fortement ce modèle.
Simplifier le modèle, simplifier la réglementation et puis peut-être une volonté aussi politique. Hein. On met la pression sur les copropriétés, il faudrait peut-être mettre aussi la pression sur les banques. En tout cas, c'est un vrai sujet sur la thématique des travaux d'économie d'énergie, de la transition écologique. Hein. L'argent, c'est le nerf de la guerre.
En tout cas, il y a un paradoxe. La loi nous impose aujourd'hui de proposer un emprunt collectif quand on fait voter des travaux et jamais l'offre n'a été aussi faible. Donc évidemment, c'est un peu compliqué pour nous, gestionnaires de copropriété.
Exactement. Je propose qu'on passe, si vous voulez bien, à la séquence numéro 4, la question du copropriétaire, la deuxième.
Les As de la Copro, la question du copropriétaire.
Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Stéphane Leroy. Je suis copropriétaire et président de conseil syndical d'une petite copropriété de 25 lots dans le 3e arrondissement de Paris. Nous nous posions la question avec mes amis du conseil syndical sur le choix d'un syndic bénévole. Qu'est-ce qu'un syndic bénévole peut proposer à la copropriété comme garantie? Peut-il partir avec la caisse? Sommes-nous assurés de sa loyauté et de son honnêteté au niveau financier? Sachant qu'on sait très bien qu'un syndic professionnel aujourd'hui est couvert par des organismes qui sécurisent les finances des copropriétaires. Peut-il en être de même pour un syndic bénévole?
Bon, la question est simple. Alors, je me tourne vers le juriste, vers l'avocat. Pierre-Edouard, que répondez-vous à ce copropriétaire qui se tâte d'aller en syndic bénévole? On parle uniquement, on ne parle pas de la qualité de la gestion, hein, on parle de la garantie financière des fonds détenus du syndicat.
J'entends bien que je ne dois pas l'encourager à choisir un modèle non professionnel. Non, je crois qu'effectivement, ce n'est pas la question qui se pose sur la garantie. C'est précisément la différence entre un professionnel et un non-professionnel. Enfin, c'est l'une des principales différences avec l'assurance responsabilité civile qui est obligatoire pour les professionnels, à défaut de quoi ils ne peuvent pas être titulaires de la carte, la formation du professionnel et la garantie financière. La garantie financière, elle est obligatoire pour les professionnels en application de la loi Auguet et de son décret d'application de 1972. Et le non-professionnel n'a absolument aucune obligation. Donc, est-ce qu'il y a des garanties pour les copropriétaires? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas ce mécanisme de garantie autonome qui permet à première demande d'être remboursé des sommes qui auraient disparu ou en tout cas qui seraient indéterminées dans un magma
financier. Quand bien même les fonds seraient sur un compte bancaire séparé, hein, ça n'a rien à voir.
Oui, ça n'a rien à voir, effectivement. Donc il n'y a pas de garantie qui sont propres aux syndics non professionnels. C'est d'ailleurs ce qui m'avait amené à faire une proposition sur la possibilité pour les syndicats de recourir aux caisses de garantie, ce qui n'est pas du tout aujourd'hui prévu. Et à mon sens, il faudrait peut-être essayer, mais même pas possible, mais je ne suis pas sûr que les caisses de garantie y répondent favorablement, que ce soit le syndicat des copropriétaires qui se rapproche de la caisse de garantie pour souscrire à la garantie autonome au bénéfice des copropriétaires, puisque ce sont eux en fait les bénéficiaires de cette garantie et non pas les syndics qui la supportent financièrement mais qui n'en bénéficient pas, sauf pour être titulaire de la carte parce que la loi Auguet y oblige. Donc je pense que là-dessus on pourrait réfléchir. Ce serait sans doute favoriser le recours au bénévolat, enfin au modèle non professionnel,
en tout cas, le sécuriser.
Parce qu'il n'y a pas que des bénévoles, mais de le sécuriser et donc d'y recourir peut-être plus facilement pour des petites copropriétés pour lesquelles les syndics professionnels ne sont pas toujours très intéressés.
Mathieu, intéressant cette idée que ce soit le syndicat qui se paye sa propre caisse de garantie.
Bah, en tout cas nécessaire, à mon avis, hein, parce que effectivement.
Faudrait que ce soit rendu obligatoire, peut-être, si on veut. Encourager ou en tout cas au moins sécuriser ce modèle.
Je ne sais pas non plus si c'est faisable. En tout cas, si j'étais copropriétaire, ça me paraîtrait extrêmement important. Parce qu'effectivement, la question de l'auditeur, c'était est-ce que le syndic bénévole peut partir avec la caisse? J'ai envie de dire oui, mais un syndic professionnel aussi. La question, c'est quelles conséquences pour le syndicat? Et là, effectivement, si le syndic est professionnel, enfin, je ne vais pas redire ce qu'a dit Pierre-Edouard, mais les conséquences pour le syndicat vont être limitées. Si les bénévoles, potentiellement, elles vont être énormes. Mais ça va être la même chose en matière de responsabilité civile. Si le syndic bénévole fait une bêtise et qui engage la responsabilité du syndicat des copropriétaires, s'il n'a pas d'assurance, les conséquences financières peuvent être dramatiques pour le syndicat des copropriétaires. Ça va être la même chose pour l'obligation de formation. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, et quels que soient les mécanismes qu'on met en place, je pense que le modèle bénévole va rester très adapté à des petites copropriétés. Il faut se dire que le syndic bénévole, avant de le choisir, il faut quand même le connaître un peu, bien lui faire confiance, hein, pas juste dire bah, « tiens, vas-y, sur ta bonne mine, je te fais confiance », parce que, encore une fois, les conséquences pécuniaires pour tout le monde peuvent être extrêmement importantes.
On est sur un mandat intuitu personnel.
On est sur un mandat intuitu personnel. Donc, dans les petites copropriétés, quand on se connaît très bien, quand c'est une, je vais pas dire une gestion familiale, mais pas très loin, ou en tout cas entre amis, voilà, ou presque, ça va très très bien marcher. Dans les grandes copropriétés où on ne connaît pas bien ses voisins, où il commence à y avoir forcément des conflits d'intérêts ou en tout cas des options de gestion distinctes selon les uns les autres, etc. ça va rester extrêmement compliqué, quels que soient les mécanismes et les garanties qu'on met en place.
Voilà. En tout cas, l'idée, on en reparlera peut-être, l'idée d'une caisse de garantie, enfin, d'une garantie payée directement par le syndicat des copropriétés est intéressante, aussi dans le cadre d'un syndic professionnel, parce qu'aujourd'hui, on détient des fonds, notamment avec le fonds travaux, on détient des fonds très très importants qui font augmenter ce qu'on appelle la pointe, hein, et donc forcément le coût de la garantie, donc payé par le syndic lui-même.
Ouais, moi je trouve ça logique quand même que ce soit le syndic qui porte cette garantie. Voilà, c'est elle vient quand même.
Ça fait partie de sa prestation.
Oui, c'est quand même une sorte d'assurance sur ses actes et sa gestion propre. Donc c'est un peu logique que ce soit lui quand même qui la porte financièrement.
D'ailleurs, ça interroge. Je sais que c'est pas toujours un sujet facile à aborder, mais ça peut interroger aussi sur le syndic non professionnel accompagné d'un tiers. On pense au modèle coopératif, parce que quand on est dans ce système-là. Qu'on a un professionnel accompagnateur du syndic non professionnel, on se trouve bien souvent avec un tiers professionnel mais non syndic, non titulaire de carte, non titulaire de garantie et détenteur des fonds. Parce qu'en fait, ce qu'on constate en pratique, c'est que ces professionnels qui accompagnent les syndics bénévoles ouvrent les comptes. Parfois, on même crée des néo-banques, donc des banques qui sont des filiales de leur propre groupe, avec des copropriétaires bénévoles non professionnels qui sont les détenteurs officiels des fonds, en fait, qui sont placés dans la néobanque du syndic... Enfin, pardon, j'ai...
Lapsus.
Oups.
Lapsus.
De l'accompagnateur au syndic bénévole, qui est en fait un gestionnaire indirect des fonds. Et lui n'est pas garanti. Et je trouve qu'il y a là une vraie faille dans le système de la loi Auguet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, compte tenu de toutes ces nouvelles pratiques, et il ne s'agit pas de les interdire... Cap, c'est pas du tout mon propos, mais je crois qu'il y a une nécessité de penser à nouveau la régulation pour répondre à des cadres tout à fait nouveaux de pratiques qu'il n'y avait pas il y a 10 ans. Et je crois qu'il y a un vrai besoin sur ce point-là et de penser la garantie pour tous ces modèles qui sont maintenant divers et qui ne sont plus le copropriétaire bénévole de la petite copropriété de 3 lots entre amis. On a un panel qui est totalement différent et qui n'existait pas il y a 5 ans. Et il faut repenser tout ça.
Sachant que l'idée, in fine, c'est la protection du consommateur, entre guillemets.
Du copropriétaire.
Hein, du copropriétaire et de ses fonds.
Oui.
Mais du coup, je pense qu'il y a une réforme de la loi Auguet s'impose. Parce que sur la détention de fonds, est-ce que syndic, nous détenons juridiquement les fonds, notamment pour les comptes séparés, la question peut se poser. Ça l'était. C'était assez simple lorsqu'il y a le syndic local. Fonctionnait en compte unique, puisque le propriétaire des fonds, entre guillemets, c'était véritablement le syndic. Aujourd'hui, avec un compte séparé, c'est un petit peu différent.
Donc là aussi, réflexion à avoir sur la loi Auguet. D'ailleurs, on a saisi le CNTGI avec l'association que je préside pour avoir justement un point de clarification sur tous ces prestataires à des syndics non professionnels ou professionnels, hein, parce qu'il y a aussi des sous-traitants, comptables, etc., qui prêtent leur concours. Et là, on est vraiment dans le champ d'application de la loi Auguet. Donc là, il y a clairement un point à faire. Je vous remercie. Je propose qu'on passe à la dernière séquence, la séquence politique.
Les As de la CoPro, la séquence politique.
Alors, Marie-Hélène, je me tourne vers vous. On va parler dans cette séquence politique de la nouvelle fiche, et là on fait un peu d'information auprès de nos auditeurs, la nouvelle fiche récapitulative du contrat de syndic. Alors je ne donne pas le nom entier parce que c'est une fiche d'information sur les prestations et les prix. Enfin, le nom est à rallonge.
C'est pas aussi synthétique.
En fait, c'est le résumé du contrat de syndic. Cette fiche, c'est quoi ? Est-ce qu'elle est obligatoire ? Et finalement, est-ce que c'est pas un doublon par rapport au contrat de syndic ?
Alors, elle est obligatoire depuis le 1er janvier 2022, hein. À peine de nullité, je crois, même du contrat, si je ne dis pas de bêtises. Pour ma part, ça va dans le sens du... Alors, je pense que le fait d'avoir standardisé, uniformisé les contrats de syndic, c'est plutôt une bonne chose pour les copropriétaires qu'on pourrait assimiler à des consommateurs et pour protéger les co-contractants et les informer au mieux. Maintenant, cette fiche synthétique, je trouve que ça ajoute de la lourdeur à la lourdeur. Elle devait s'appeler synthétique. Moi, je la trouve pas du tout synthétique. Ça se rapproche aussi des contrats d'assurance où maintenant, il y a une notice qui s'appelle IPID, si je dis pas pas de bêtises, où ça marche par idéogramme. Il y a 9 items avec des bonhommes qui sourient, qui sont rouges ou verts, qui sourient ou qui font la triste mine en fonction des points de vigilance à avoir. Donc voilà, c'est un peu du contrat dans le contrat.
C'est ça, parce que le contrat de syndic, il fait 11 ou 12 pages, voilà. Police 8 minimum, on ne peut pas toucher une virgule, sinon, boum, déchets CCRF. Voilà. Et l'idée, au départ, du contrat de syndic à la loi Allure, c'était de faciliter la compréhension et la comparaison entre les syndics. Et finalement, on s'aperçoit que c'est un échec, puisqu'on s'est senti obligé de faire un résumé de ce contrat, qui fait lui-même 4 pages. On attend, je suis un peu sarcastique, demain, le résumé du résumé. Exactement. Mathieu.
Oui, Marie-Hélène l'a très bien dit, hein, c'est vraiment de la surinformation au sens presque littéral du terme, puisqu'on redit ce qui est déjà dans le contrat de syndic.
Et d'une façon différente.
Oui, d'une façon différente. Je pense que le problème, il vient à la base du contrat de syndic et de la manière dont il est rédigé. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment un contrat de syndic, on a un précis droit de la copropriété, où on rappelle tout un tas d'obligations légales qui sont déjà elles-mêmes dans la loi de 65. Et du coup, au milieu de ça, on a le volume des prestations, le nombre de visites, etc., et les tarifs du syndic qui sont perdus dans tout ça. À mon avis, on peut faire beaucoup plus simple. Il faudrait réécrire le contrat type avec des conditions générales qui, elles, sont finalement le socle commun à tout le monde, qui peuvent renvoyer à la loi de 65 sur la prise d'effet, la durée, le renouvellement, la résiliation anticipée, etc. On n'est pas obligé de tout marquer puisque de toute façon, c'est la loi. Des conditions générales et puis des conditions particulières dans lesquelles on va retrouver et pouvoir comparer très simplement d'un contrat à l'autre la volumétrie des prestations, donc combien de conseils syndicaux je m'engage à faire, combien de visites, etc., pour quelle durée, et la tarification proposée. Donc avec des conditions générales, des conditions particulières, on peut synthétiser tout ça et on n'est pas obligé de se retrouver avec 18 pages de
documents. Donc on ferait quoi et un contrat comme ça, 4 pages, allez, 4 pages maximum.
Sur les notices d'information en matière d'assurance et bancaire, là vous avez un vrai moyen de comparer, puisque c'est assez didactique. Hein, comme
c'est une fiche.
Hélène.
C'est une fiche
avec des codes couleurs, avec les points très précis de ce qui est par exemple inclus dans un contrat d'assurance, ce qui est exclu, et qui permet du coup d'avoir un vrai comparatif. Et donc, je pense que le bon modèle, c'est celui-ci, et pas effectivement ce côté
effectivement,
très, très, très rédigé.
Si on adopte définitivement le contrat type, mais reprendre le problème tout à zéro, remettre à plat, comme le propose Mathieu, on abandonne ce contrat type-là.
Ouais, ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas un contrat type. Hein. Moi, je suis personnellement assez favorable.
Non, mais si la fiche est rendue nécessaire, c'est parce que le contrat type.
C'est parce qu'il est mal rédigé, pas parce qu'il existe. Je pense que c'est assez nécessaire que tout le monde fasse une proposition sur les mêmes bases, très simplement comparable. Ça, à mon avis, il y a relativement peu de syndics qui remettent ça en question. Enfin, il y en a sûrement. Mais en revanche, voilà, c'est la manière dont il est rédigé. Et je pense que ça pourrait être un bon thème pour la prochaine concertation bisannuelle.
On en a parlé la dernière fois.
On ne peut pas en améliorer la rédaction? Et certainement, on peut faire quelque chose de moins compliqué et de plus facile à lire. Ça, c'est sûr.
Oui, Pierre-Edouard, je vous écoutais l'autre jour à la radio, vous parliez de ça. Là, on est vraiment dans le consumérisme total. Le syndic n'est plus un mandataire, il est un prestataire. Le copropriétaire n'est plus membre d'un syndicat, il est consommateur.
Un client.
Oui, mais c'est l'esprit de la loi Allure et de toutes les dispositions qui ont été prises depuis pour protéger effectivement un non-contractant, oui, une personne qui est en dehors du contrat mais qui en bénéficie directement. Et donc on va regarder cette personne-là pour la protéger. C'est vraiment l'esprit du texte. Mais c'est vrai que si on modifie un peu, j'ai pas pensé à cette présentation, mais qu'on connaît bien en droit des baux, notamment des baux commerciaux, hein, avec les conditions particulières et les conditions générales, ça pourrait améliorer la situation et on pourrait retrouver quelque chose d'un peu plus souple. Moi, je suis à titre personnel, mais pas directement, enfin, je suis copropriétaire, mais moins concerné par le contrat de syndic que les syndics, mais c'est vrai que l'idée peut-être de retrouver un peu de souplesse aussi dans le contrat, on pourrait peut-être avoir un cadre assez strict, tout en ayant une dose de liberté, exactement, de liberté contractuelle qui permet d'aménager en fonction des copropriétés. Je pensais l'autre jour aux copropriétés, aux résidences tourisme et aux résidences services, notamment pour les personnes âgées. Je ne comprends pas qu'on puisse gérer de la même manière, avec le même contrat, avec les mêmes obligations en tout point, un immeuble de ce type-là où il peut y avoir 200 lots et un immeuble de 3 lots sur un niveau, ou même une copropriété horizontale et une copropriété verticale en IGH. Ça n'a aucun sens. Enfin, intellectuellement, raisonnablement, ça n'a aucun sens d'avoir strictement les mêmes règles en tout et les mêmes prestations avec les mêmes présentations. Ça n'a pas de sens.
Surtout qu'on multiplie les régimes, différents régimes juridiques en copropriété, les immeubles tertiaires qui peuvent s'affranchir aujourd'hui de la loi de 65, les immeubles tertiaires, et adopter une autre convention beaucoup plus libre, type ASL. Bon, les ASL, c'est encore autre chose, mais les résidences services, les résidences étudiantes, les petites copropriétés qui ont aussi leur régime. Ces copropriétés, on pourrait imaginer une forme de co-gestion où le conseil syndical aurait une activité prépondérante. Mais pour autant, on a un contrat de syndic unique, sclérosé, et qui, je le répète, n'a pas bougé d'un iota depuis 7 ans, à part une petite mise à jour purement technique à la suite de l'apparition de nouveaux textes. Alexis ?
Pas grand-chose à rajouter, si ce n'est qu'il faut vraiment une concertation bisannuelle pour qu'on...
Alors normalement, on est censé la faire cette année.
Visiblement, si on compte bien, oui, on arrive à juillet 2022. Il faut qu'on simplifions, parce que c'est vrai que, Pierre-Edouard, tu le disais la dernière fois, c'est de la surinformation. Enfin, vous posez la question à un copropriétaire qui a reçu sa convocation d'Assemblée Générale. Je ne sais même pas d'ailleurs s'ils lisent du coup.
Je ne suis pas certaine.
Cette fiche, mais en fait, voilà, on produit du papier, on gaspille du papier pour pas grand-chose aujourd'hui.
Et c'est vrai que l'excès d'information, on perd le lecteur et finalement, perd la valeur du contrat. Je vous remercie vraiment à tous. Cette émission touche à sa fin. J'avais un dernier thème pour la séquence politique, mais je la garde pour la prochaine émission. Donc, suspense, puisque là, le temps est écoulé. Je vous remercie. Donc, Mathieu Mialaret, je rappelle, vous êtes directeur métier, copropriété, gestion locative, administrateur de biens, donc chez Foncia.
Exactement, Foncia. On ne dit plus Foncia Group, c'est Foncia maintenant.
Foncia. Merci encore pour votre venue. Marie-Hélène Lequin, responsable d'agence chez Auralia, syndic, vous êtes vous-même à Paris. Alexis de Coster, vous êtes directeur métier, pareil comme Mathieu, mais chez Crédit Agricole Services Immobilier. Merci beaucoup.
Merci, Gilles.
Pour votre participation. Et enfin, Pierre-Edouard Lagrelet, avocat au barreau de Paris, avocat au barreau de Bordeaux. Je ne me suis pas trompé cette fois, mais Lyon, je suis sûr que la prochaine fois, je pourrai le prononcer. Et vous êtes, je rappelle, parce que c'est un excellent ouvrage, auteur de l'ouvrage Syndic de copropriété, paru chez Edilex. Je vous remercie beaucoup. Cette émission est maintenant terminée. Je vous souhaite de passer un bel été. On se revoit à la rentrée. Et bien sûr, faites de la copro.
Les As de la CoPro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.